Apis mellifera. Le rendez-vous de Gaël Matura avec le rucher école du CPIE de Caylus.
Bonjour Gaël.
Bonjour Lisa.
Gaëlle Matura, l'animatrice du rucher école de Caylus. Ça y est, ça repart, c'est le printemps, c'est la grosse saison pour les apiculteurs. C'est donc la saison où la première séance du rucher école se tient en extérieur, puisque ça fait des mois que vous êtes enfermés dans la salle des associations à regarder des PowerPoint. Ça y est, ça fait du bien.
Oui, ça fait beaucoup de bien. Et oui, on est comme les abeilles, en fait. Jusque-là, on était plutôt enfermés, hein, parce que la météo permettait pas d'avoir des activités à l'extérieur, que ce soit pour les adhérents du rucher école, aussi bien que pour les abeilles. Et puis, avril, ça y est, hein, on met le nez dehors. Donc, moi, j'ai déjà commencé le travail sur les ruches au mois de mars, mais sans les adhérents, pour préparer les ruches, on va dire, à la bonne tenue de la séance, pour que ça soit vraiment intéressant, productif et pédagogique pour les adhérents, surtout ceux qui n'ont jamais vu d'abeilles.
Donc c'est vérifier qu'il n'y a pas eu trop de mortalité, physiquement comment les ruches se tiennent, est-ce que le bois est rongé?
C'est tout ça, donc on regarde l'état extérieur des ruches, puis surtout on va voir ce qui s'est passé dedans. On change des cadres, puisqu'on en avait déjà parlé ensemble, il faut renouveler la cire, pour des raisons sanitaires. Et puis la reine, elle préfère pondre sur des cires neuves. Puis au mois de mars, on a été un peu embêtés avec la météo. C'était compliqué. Il y a eu des coups de froid. Il y a eu du vent. Donc, froid, on ne peut pas ouvrir. Quand il y a du vent, on ne peut pas ouvrir. J'ai quand même réussi à trouver des petits créneaux. Et donc, voilà, j'ai fait ces travaux préparatoires. J'ai surveillé que les colonies soient bien vivantes, que les reines se soient bien remises à pondre. J'ai limité les sémages avant la séance d'avril, parce que...
C'est-à-dire.
Alors, vous savez qu'au printemps, c'est la saison d'expansion des ruches. Donc, la reine, elle démarre avec une centaine d'œufs par jour, on va dire fin février. Puis tout doucement, jour après jour, elle augmente sa ponte. Et arrivé en avril, on est à peu près 1000 œufs, entre 1000 et 1500 œufs par jour. Donc... la population à l'intérieur des ruches, elle augmente beaucoup et vite. Et il va arriver un moment donné où il va y avoir plus assez de place pour que la reine ponde. Beaucoup, beaucoup d'abeilles, parce que ces œufs pondus, au bout de 21 jours, ça fait une ouvrière adulte. Donc ça fait des milliers d'abeilles en plus dans la ruche. Et il y a tellement d'individus que la reine, quand elle se promène sur les 10 cadres de la ruche, elle n'arrive plus à diffuser suffisamment ses hormones royales. Donc, comme les ouvrières sentent moins les hormones royales, c'est un signe pour elles qu'il est temps de préparer un essaimage et donc de préparer de nouvelles reines, d'élever de nouvelles reines. Et puis, à peu près la moitié de la colonie qui va partir avec la vieille reine pour laisser la place à une jeune reine.
À une reine, elles se battent donc.
Ouais, elles se battent, hein, ça c'est assez connu. La première qui sort de sa cellule royale, qui naît, va tuer ses sœurs, soit ses sœurs qui sont encore contenues dans les cellules, soit carrément un combat à main nue, à pattes nues et à aiguillon lorsque les deux reines sont nées à peu près en même temps. Alors, tu me disais pourquoi limiter l'essaimage, parce que si on ne limite pas l'essaimage, on va se retrouver avec une toute petite colonie, une jeune reine qui a besoin de partir sur son vol de fécondation. Donc, il va lui falloir 10 jours pour être fécondée. Il aura fallu 16 jours avant pour faire la reine. 16 plus 10, ça fait 26 jours. Donc, en fait, on prend 26 jours de retard sur le développement d'une colonie. Et si on veut avoir du miel... il ne faut pas laisser s'aimer ses colonies. Voilà.
Alors, du coup, c'est toi qui tues les reines.
Alors, je ne tue pas les reines, mais en fait, on supprime les cellules royales. Donc, il faut visiter à peu près une fois par semaine, donc entre les 7 et 10 jours, voilà, puisqu'une reine se fabrique en 16 jours et que lorsqu'une ruche essaime, la vieille reine, en général, part avant que la jeune reine, elle, naisse. Donc, ça veut dire que si j'attends 16 jours entre chaque visite, c'est trop long. Donc, on dit qu'en général, il faut passer une fois par semaine. Donc on visite rapidement et dès qu'on voit une cellule royale, eh ben on la supprime. Le souci, c'est qu'elles peuvent en produire 10 ou 15, que si on en oublie une, elles continuent d'élever cette unique cellule royale et ça essaimera quand même.
Et elles ne sont pas trop serrées puisqu'elles pondent, elles sont des milliers dans la ruche
Alors, justement, ce qu'on fait, c'est que quand, par exemple, on a une colonie qui est un peu plus faible à côté, on va prendre un cadre d'une ruche très populeuse, donc un cadre de couvain qui est prêt à naître, et ce cadre-là qui va donner des milliers d'abeilles, on l'insère dans une ruche plus faible ou moyenne, et ça va équilibrer les ruches.
Et il n'y a pas de problème niveau phéromones, là, elles s'entendent bien.
Alors, on ne met pas les abeilles. On ne met que le cadre avec le couvain. On secoue les abeilles, d'accord, et on n'introduit que le cadre sans les abeilles. Et là, il n'y a pas de souci, puisque n'importe quelle colonie prend en charge n'importe quel cadre de couvain. Voilà. Ce qu'il faut faire attention, surtout, c'est que maladie, parce que sinon on transmet les maladies. Donc voilà, ça c'est une façon de limiter l'essaimage, on équilibre les colonies. Et puis dans la grosse ruche où on a pris ce cadre de couvain, il y a un emplacement libre. Donc on laisse jamais un emplacement libre dans une ruche, parce que sinon aussitôt elles se remettent à construire de la cire, et après on a une construction de cire qui est accrochée à rien, et qui nous fout un sacré bazar. Donc on réintroduit à cet emplacement libre un cadre de cire à construire par les abeilles. Et ça va les occuper, ça leur donne de l'espace, de l'air, de la place pour pondre, et ça permet aussi de ralentir l'essaimage.
Vous, c'est le moment là de courir avec une épuisette un petit peu partout pour aller choper les essaims.
Oui, c'est ça. Donc, quand on n'a pas réussi à limiter son essaimage, par les méthodes que j'ai expliquées ou par d'autres méthodes, parce qu'en fait il y en a plein. Hein.
Oui, il y avait un aspirateur aussi.
Oui, alors l'aspirateur et l'essaimage, effectivement, l'essaim sort et il va aller se poser à proximité de la ruche dans un premier temps. Donc, je vous rappelle que dans cet essaim, il y a une vieille reine qui s'est un peu fait amaigrir pour pouvoir voler. Et puis, elle est entourée de milliers d'ouvrières qui, elles, par contre, se sont gorgées de miel et de nectar. Donc, en plus, elles vident la ruche de ses réserves. Donc, elles se sont gorgées de nourriture pour avoir du stock pendant ce voyage. Et puis, d'avoir aussi du stock de nourriture pour tout de suite, dès qu'elles vont trouver un nouvel endroit, pouvoir rebâtir de la cire. Donc, ça, on a cette boule, ce gros ballon de rugby qui va se poser dans un arbre, dans une haie, par terre, sur un piquet, ça dépend, hein, sur un vélo, sur un mur. L'essaim va rester tranquillement une heure, quelques heures, une demi-journée, hein, ça dépend totalement. Pendant ce temps-là, on a des abeilles éclaireuses qui partent chercher un nouveau site de nidification. Donc, plutôt un trou, une cavité, pas trop petite, pas trop grande, avec une petite entrée à l'abri du vent, de la pluie. Et dès qu'il y a une éclaireuse qui a trouvé l'habitat idéal, elle revient et elle l'indique par une danse, la même danse que lorsqu'elles indiquent la nourriture. Donc, elle indique par une danse où se trouve cette nouvelle maison. Et elle va entraîner avec elle d'autres éclaireuses qui vont elles aussi aller visiter cet habitat. Hop, si ces éclaireuses trouvent que c'est un endroit sympa, elles reviennent aussi sur l'essaim et elles vont être plusieurs éclaireuses à faire la même danse pour indiquer le même endroit. Et ça va déclencher la prise de décision de l'essaim qui va dire, les éclaireuses sont plusieurs à nous indiquer le même endroit, on y va. Et là, dans un vol rapide et fulgurant, parce que des fois, il nous part sous le nez, on n'a pas eu le temps de le récupérer.
Tonitruant, en tout cas.
Voilà, puis ça vole vite, hein, c'est plus de 30 km/h des abeilles en vol, donc vous pouvez toujours courir derrière, vous ne les rattraperez pas. Et hop, tout ça part, ça rentre dans ce nouvel habitat, ça met quelques minutes à rentrer, hein. C'est très rapide. Et là, tout de suite, elles se mettent au boulot, fabrication de la cire, pour que la reine puisse avoir des alvéoles pour pondre. Les gardiennes sont postées devant en défense de ce nouvel endroit. Et tout de suite, les butineuses partent faire des allers-retours pour ramener de la nourriture.
Et les éclaireuses, elles changent de métier, du coup, parce qu'elles n'auront servi qu'une fois.
C'est ça, elles vont. Après, l'éclaireuse, elle va redevenir butineuse. Voilà, si elle a survécu à cette expérience de l'essaimage. Donc c'est un métier effectivement éclaireuse qui est très particulier et qui se produit qu'au moment de l'essaimage.
Et dans l'essaim, quand il est posé sur le vélo, sur la bite d'amarrage ou n'importe quoi, la reine est aux deux tiers au milieu, aux deux tiers en partant du bas.
C'est ça, elle est dans le tiers supérieur. Elle est dans le tiers supérieur, et c'est parce que c'est là qu'elle va être le mieux protégée et c'est là qu'il va y avoir le plus de chaleur pour conserver cette reine à l'abri. Donc quand on veut récupérer un essaim, le but c'est de récupérer la reine.
C'est elle qu'il faut attraper, hein? Ouais.
Donc c'est elle qu'il faut attraper, parce que si on ne récupère pas la reine, on ne récupérera pas l'essaim. L'essaim va ressortir, il va repartir. Et récupérer un essaim sans reine, elles ne vont pas pouvoir élever une nouvelle reine, puisqu'il n'y aura pas d'œuf, donc pas d'élevage royal possible. Donc il faut vraiment essayer de récupérer la reine, en sachant que sur ces premiers essaims qui partent, on récupère une vieille reine. Donc cet essaim récupéré, eh ben, il est fort possible, bon, il va certainement passer l'hiver, mais au printemps suivant, la reine sera trop vieille, elle risque de mourir. Donc ça, l'apiculteur, il doit le prendre en compte et se dire, bon, bah, je récupère un essaim, la reine est vieille. Un peu plus tard dans la saison, ce qu'il faudrait faire, c'est changer la reine. Soit en introduisant une reine achetée ou une reine qu'on a élevée, soit en tuant cette vieille reine, gentiment, avec amour, hein, pour que les ouvrières élèvent une nouvelle reine et que pour l'année prochaine, on soit sûr que la colonie survive.
Si la reine meurt de mort naturelle, les ouvrières peuvent aussi fabriquer une nouvelle reine.
Alors oui, mais il faut que cette vieille reine, elle meure au bon moment. Donc en général, la période de remérage naturel, donc remérage, ça veut dire refaire une reine, hein, refaire une mère, ça se passe plutôt au mois d'août. Alors c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça que ça se fait. Donc si cette vieille reine meurt, on va dire fin juillet, début août, la colonie va remérer et ça va aller très bien. La reine aura le temps de se faire féconder, elle aura le temps de repondre des abeilles d'hiver pour la survie hivernale de la colonie, et au printemps d'après, ça va démarrer comme une bombe. Ça va être super. Par contre, si cette reine, elle meurt en octobre, eh ben, il sera trop tard pour refaire une nouvelle reine. Si elle meurt en janvier ou février, bon ben, c'est même pas la peine, d'accord ? Et parfois, cette vieille reine, elle garde ses forces jusqu'au bout et elle meurt à début de mars. Sauf que même s'il y a encore des œufs pour élever une nouvelle reine, début mars, il n'y a pas de mâle encore. Donc il n'y a pas de mâle pour la fécondation. Donc la ruche va se retrouver orpheline. Et s'il n'y a pas de reine, il n'y a pas de renouvellement des générations. Et donc les ouvrières présentes dans cette ruche vont disparaître les unes après les autres de vieillesse et c'est tout. Voilà.
Wow, la survie de l'espèce pour les apiculteurs, du coup. Et là, il y a à manger ?
Il y a plein à manger en ce moment. Il y a énormément de végétation qui est en fleurs. Et puis, dès qu'il y a une floraison qui s'arrête, il y en a une autre qui prend le relais. Et c'est pour ça que ça essaime. Les abeilles essaiment quand il y a des périodes de grosses mielées, parce qu'elles ont à manger. Donc, elles peuvent gonfler la ruche d'origine facilement. Et elles vont aussi pouvoir gonfler le nouvel essaim qui part facilement. Il y a à manger partout. Donc, l'intérêt de l'apiculteur, c'est d'empêcher l'essaimage, d'accord ? D'alléger un peu ses ruches. Il peut les diviser aussi, hein, faire un essaim artificiel, ça marche très bien. Et puis, dès qu'en bas, à nouveau, il voit que tous ses cadres sont bâtis, hop, qu'est-ce qu'il fait ? Il pose une hausse. Comme ça, on donne du volume à la colonie. Et au lieu de stocker du nectar dans le rez-de-chaussée, elles vont aller stocker du nectar dans la hausse. Ça va laisser de la place au rez-de-chaussée pour que la reine, elle ponde. Et la colonie va se rééquilibrer. Et donc, elle sera en pleine forme, avec du miel pour elle, du miel pour l'apiculteur ou l'apicultrice. Et voilà, donc c'est ça le boulot de l'apiculteur.
Et là, ce gel de ces dernières semaines là, qui s'est produit pile au moment où il y avait tous les abricotiers, les pêchers en fleurs, ça, au moment où elles sortaient, donc ça ne les aura pas foutu une grosse claque ?
Alors non, moi, que ce soit les colonies qu'on a sur Caylus, au Rucher École ou d'autres colonies que j'ai ailleurs, j'ai constaté aucun dégât par rapport à ce froid. Faut bien savoir qu'en fait, l'abeille ne craint pas le froid. Si elle a suffisamment de réserves de nectar ou de miel, Elle consomme cette ressource sucrée et grâce à ça, elle produit de la chaleur. C'est son métier, c'est son évolution, son adaptation. Et donc, en fait, il a fait froid, mais pas tellement longtemps. Pour nous, oui, parce que nous, il nous tardait de qui est le beau jour arrive. Mais pour les colonies, ça les a pas impactés. Ça les a même pas mis en retard. Et si vous regardez bien, en fait, il a pas tellement plu. On a eu des jours où il a fait froid, mais on a eu des journées aussi où, sur les coups de 11 heures, il se mettait quand même à faire un redoux. Et là, les abeilles sortaient, et elles ont plutôt bien travaillé pour ce début d'année 2022.
Parce que c'est la pluie qu'elles aiment pas.
Voilà, la pluie, ça les empêche, elles sortent pas, hein. Et puis elles peuvent pas travailler par la pluie. Alors, par contre, ce qui est paradoxal, c'est que si on veut une miellée et faire du miel, que ce soit pour elles ou pour nous, il faut qu'il ait plu un peu, parce que sinon les fleurs ne produisent pas suffisamment de nectar. En période de sécheresse, qu'on soit en sécheresse printanière ou en sécheresse estivale, il n'y a pas de miellée. D'accord ? Donc, il faut qu'il pleuve. Or, là, au mois d'avril, il a un petit peu plu. Une petite pluie par-ci, une petite pluie par-là. Au milieu d'une époque de pleine floraison, donc tous les prunus, il y a eu tous les fruitiers à noyaux, ensuite les fruitiers à pépins, plus toute la faune, toute la flore, pardon, sauvage. Donc, un petit coup de pluie par-ci, par-là, c'est parfait.
Du coup, tout va bien.
Tout va bien, je confirme.
Pour cette première séance de ce mois d'avril, Rucher École de Caylus, vous allez donc mettre les mains dans les abeilles.
C'est ça, donc les adhérents, surtout pour ceux qui découvrent l'apiculture, ça sera la première fois. Et donc avec eux, on va faire ce qu'on appelle la visite de printemps, même si moi j'en ai fait avant, mais là avec eux, on va le refaire, visite de printemps. Et on va leur montrer comment on divise une ruche, donc comment on crée un essaim artificiel pour justement limiter l'essaimage et aussi assurer le renouvellement de son cheptel. Créer une petite colonie qui fera une nouvelle reine et qui produira du miel l'année prochaine. Donc, et puis surtout, ils vont voir des ouvrières, des mâles, des reines, parce que les reines sont marquées maintenant sur le rucher école, donc elles sont plus faciles à voir. Ils vont essayer de voir des œufs, ces tout petits grains de riz de à peine un millimètre. Donc ça, c'est le plus dur à voir. Et puis, on va leur montrer les larves, le couvain, les nymphes. On va essayer de voir si on voit du varroa. Important à reconnaître aussi. Et puis, pour ceux qui ont envie, ben, ils s'entraîneront au marquage des reines. Sauf qu'ils ne vont pas s'entraîner sur les reines, ils vont s'entraîner sur des mâles.
Parce qu'ils piquent pas.
Ils piquent pas et nos cobayes, c'est les mâles.
Pour la dernière petite question, question qui peut rester sans réponse, lors de l'essaimage, est-ce qu'elle vote pour savoir qui suit qui et qui reste à la ruche ? Comment ça se passe ?
Alors, elle ne vote pas. En fait, il y a un équilibrage de la population, c'est-à-dire que vous savez que les abeilles font différents métiers en fonction de leur âge. Et donc, entre la colonie qui reste sur la ruche mère et la colonie qui va créer l'essaim, elles se répartissent pour qu'il y ait à peu près autant de nourrices d'un côté que de l'autre, de butineuses, etc., etc. On dit quand même que dans l'essaim qui part, il y a un peu plus de butineuses et que dans la colonie qui reste, il y a un peu plus de nourrices puisque dans la colonie qui reste, il y a du couvain et qu'il faut s'en occuper. Mmh. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose d'instinct qui se fait naturellement.
Première arrivée, première sortie. Vive les reines, vive le printemps.
Vive les abeilles.
Et vive Gaëlle Mathura, l'animatrice ruchée école de Caylus. Gaëlle, toutes ces chroniques Apis mellifera sont à retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr. Il y en a un gros paquet, ça fait quelques années qu'on fait ça.
Et ouais, mais il y a tellement de choses à dire sur les abeilles. Et puis, moi, je suis ravie de partager ma passion avec tous les auditeurs de CFM.
Nous aussi. Gaëlle, merci beaucoup. Au mois prochain.
À bientôt.